ici Chantal Lavoie. C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve, et notamment ce jeudi 11 juillet. L'émission Aime l'été au rendez-vous chaque jour de la semaine entre midi et 13 heures. J'espère pour vous que les journées passent plus lentement que les nôtres. Hein. Ça veut dire que vous êtes peut-être en mesure de bien profiter de votre été. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Cela dit, des sujets et des rencontres à ne pas manquer au cours de la prochaine heure. Comme vous le savez, les feux de forêt ont été bien présents dans l'actualité ces dernières années. On va tenter de faire un peu le tour de la question. Et puis encore et toujours de la musique au menu. De jeunes musiciens réalisent un beau rêve, aussi une visite fort intéressante pour la famille, mais également une visite adaptée pour des clientèles plus particulières et un beau projet pour assurer un avenir inclusif à la communauté LGBTQ+. Je vous invite à passer votre heure de lunch en notre compagnie. Voici Aime l'été. Au programme, on va parler de ce projet ambitieux qui vise à créer des conditions optimales pour améliorer les services à la communauté LGBTQ+. Avec Nicolas Bourgeois, nous allons en apprendre davantage sur Espace LGBTQ+. De plus, le Katharina String Quartet a été choisi pour faire une résidence de 2 ans au prestigieux conservatoire Juilliard à New York. De jeunes musiciens emballés, dont l'avenir est certainement prometteur, on reçoit un des membres du quatuor, Jérôme Chiasson. Et puis, on va s'entretenir avec Irina Lezive à propos des matinées apaisées du Centre des sciences de Montréal. Mais nous allons ouvrir l'émission avec un sujet chaud, les incendies de forêt. On en discute avec Isabelle Gariépi de la SOBFEU. Bienvenue à Aime l'été! Bonjour Nathalie Barrette.
Bonjour.
Alors, toujours avec moi pour cette émission Aime l'été. Oui. Bon, alors, t'avais des choses que tu voulais nous dire hier.
Oui, bien en fait, hier,
mais
j'ai dit que j'étais
contente.
Mais c'était pas la
bonne météo pour ça.
Non, mais hier, j'étais contente, il pleuvait. Mais je veux aviser les gens qui annoncent très beau dans les prochaines journées. Alors, j'invite les gens à aller au 38e. C'est la 38e édition du Festival international Nuit d'Afrique. Alors, ça a lieu du 9 au 21 juillet. C'est commencé. Où il y a plus de 700 artistes qui proviennent d'une trentaine de pays à travers le monde. Puis comme toujours, ils ont une programmation riche, je dirais même
Absolument. Parfois
audacieuse. Et il y a 13 jours de programmation en salle et 6 jours de programmation gratuite en plein air. Et c'est au cœur des quartiers des spectacles à Montréal. Allez-y en grand nombre.
Tout
il va
fait.
Faire beau.
Et puis en fin de semaine, justement, dimanche 14 juillet, visite des jardins secrets de Rosemère. Je ne sais pas combien s'il y a d'autres municipalités qui font ça, mais enfin, on part à la découverte de merveilles horticoles dans des jardins privés, ouverts au public pour l'occasion. Là, évidemment, c'est pas à longueur d'année, on s'entend. C'est vraiment juste le 14 juillet. Alors donc, c'est en fait, on parle de la maison Hamilton et du Marais Boutillier, notamment. Alors évidemment, tous les détails sont sur le site de la ville de Rosemère. Vous aurez tous les détails, la programmation complète. OK, alors voilà. Et puis là, c'est un sujet chaud, effectivement. Des feux de forêt, on y a goûté dans les années passées, en fait, l'année dernière notamment. Et on s'entretient avec, Madame Gariépi, qui est intervenante, agent de protection et en même temps aux communications de la SOBFEU. Bonjour, Madame Gariépi.
Bonjour.
Alors, c'est ça, Isabelle Gariépi, donc de la Société de protection des forêts contre le feu, c'est ça, la SOBFEU. Et puis, on en a entendu beaucoup parler l'année dernière, notamment, et encore cette année, là, dans le coin de Churchill Falls, il y a eu des incendies importants. Et puis, là, évidemment, d'année en année, c'est ça, on parle de plus en plus de ces incendies de forêts qui sont très présents. On sait qu'en Europe aussi, c'est vraiment le gros problème, là, année après année.
Oui, absolument. Une grosse année qu'on a eue l'année dernière au Québec. Cette année, ce qu'on a comme incendie de forêt depuis le début de l'année, là, c'est 215 incendies depuis le début de l'année au Québec. On est en deçà de la moyenne d'incendies qu'on a habituellement par année à cette date-ci. C'est à 323 incendies. On a eu un printemps actif. On s'attendait à avoir un peu plus d'incendies de cause humaine. Je crois que c'est entré dans la mémoire de la collectivité, ce qu'on a vécu dans les dernières années parce qu'il y a un peu moins d'incendies de cause humaine cette année.
C'est ça, parce qu'en fait, des feux de forêt, là, il y en a toujours existé. Et finalement, ben, c'est sûr que les orages et tout, bien sûr, la foudre cause la majeure partie des incendies, enfin, quand c'est en région très, très éloignée. Mais plus on se rapproche, évidemment, des communautés, ben là, c'est souvent des incendies, les causes sont souvent humaines.
Oui, absolument. Les causes sont souvent humaines, puis souvent, on va le voir un peu plus au printemps. Dans cette période-ci, on a des incendies en activité au Québec, beaucoup plus dans la partie nord, comme vous le dites si bien, en raison de la foudre. Mais en début d'été ou au début du printemps, c'est vraiment l'humain qui, malheureusement, cause la plupart des incendies. Puis, en moyenne, 80% des incendies qui sont allumés le sont par les humains. Souvent, c'est un feu de camp mal éteint, c'est la cigarette qui va être, les mégots de cigarette qui vont être jetés en forêt peuvent aussi causer des incendies. Puis c'est souvent la plus grande part des causes d'incendies va être justement en négligence humaine. Quand on peut les éviter, ben ça permet justement de combattre les incendies qu'on n'aura pas le choix de combattre en raison de la foudre. La foudre en allume quand même une partie et souvent la foudre nous avertit pas quand elle va tomber.
Oui, bien sûr. Mais alors, vous devez constamment faire de la détection aussi, surtout pour les régions plus au nord, là. Donc, vous avez des avions, finalement, qui patrouillent pour détecter ces feux, j'imagine. Est-ce que vous le faites aussi? Est-ce que les satellites aident dans ce sens-là?
Absolument. En fait, on travaille avec des avions de détection qui vont justement patrouiller un peu partout le territoire. Les satellites nous aident également. On est capable d'avoir des données sur les points chauds qu'on va avoir sur le territoire. Puis l'autre partie qui nous aide aussi, ben, c'est l'humain. Parce que on a un numéro, hein, le 1-800-463-FEU ou le 911 peut être utilisé aussi des fois pour nous avertir qu'on a vu une fumée suspecte dans un certain endroit. Fait que toutes ces façons-là nous permettent justement de détecter les incendies de forêt.
Exactement. Et puis évidemment, les météorologues aussi qui peuvent vous aider et faire des prévisions aussi. Alors ça, vous êtes plus en alerte dans ce temps-là. Évidemment, le territoire québécois, territoire forestier du Québec est divisé là en deux zones. Une zone plus nordique, alors qui touche moins les populations, mais encore, là, évidemment, il y a du monde aussi dans le nord du Québec, mais il y a aussi une autre zone un peu plus près des communautés. Mais c'est sûr que, bon, il y a toujours eu un aspect quand même important au feu de forêt. C'est pas que négatif, hein, ça permet de régénérer aussi la forêt. Mais évidemment, c'est sûr que là, ce qui arrive, là, c'est les changements climatiques, le réchauffement partout. Alors ça, c'est sûr que, puis avec l'intervention humaine, c'est sûr que là, ça crée un problème qui devient grandissant. Et puis, on assiste à des catastrophes, là, bien souvent. Enfin, évidemment, c'est sûr que là, on a eu peur encore pour la communauté de Churchill Falls récemment.
Bien, absolument. Puis, vous savez, hein, les chaleurs, on les ressent un peu plus au nord actuellement. Hein. Même les dangers d'incendie, là, même prévus pour les prochaines journées, mais ce qu'on voit là actuellement cet été, c'est vraiment la partie nordique qui a vraiment des secteurs où est-ce que la chaleur arrive. Nous, on le voit avec nos météorologues qui calculent un danger d'incendie, un danger d'allumage d'incendie. Et ce danger-là, il va jusqu'à extrême là, dans la partie un peu plus nordique, notamment dans les secteurs de Kanapisco ou de la baie James, où est-ce que les indices sont beaucoup plus hauts actuellement.
Ouais. En tout cas, chose certaine, année après année, j'ai ma collègue avec moi, Nathalie. C'est sûr que je trouve qu'à chaque fois qu'arrive l'été, là, je ressens cette espèce d'angoisse là, de me dire ben, comment ça va se passer cette année. Et puis vraiment, je trouve que c'est
toujours
quelque chose.
Il y a toujours des craintes, hein, par rapport au... On se dit aussi le camping, il y a toujours des craintes par rapport à ça. Mais je me posais une question. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer à quoi est attribué... En fait, la baisse, vous parliez d'une baisse actuelle en ce moment du nombre d'incendies. C'est attribuable
aux conditions météo.
Les conditions météo, parce qu'il n'y a pas eu tant de pluie. Il me semble que c'est quand même assez sec. Est-ce que c'est dû à la publicité? Parce qu'on entend de la publicité maintenant pour la prévention.
Bien, je vous dirais peut avoir plusieurs facteurs. En fait, oui, je pense que la prévention, la campagne qui a été faite cette année a dû avoir, puis on avec ce qu'on prévoyait avec nos météorologues pour notre printemps, on pense qu'il y a eu vraiment un impact auprès de la population. Mais la météo, vous savez, est aussi un des facteurs là, qui va faire varier les saisons de l'une à l'autre. L'année dernière, on a eu une très grosse saison, mais si on se replace un an avant, en 2022, c'était une des plus petites saisons enregistrées. Fait que donc, cette variable-là peut être vécue d'une année à l'autre. Donc, on peut avoir des saisons un peu plus petites. Cette année, on a une bonne saison, mais on est quand même en bas des moyennes au niveau du nombre d'incendies, puis même au niveau des hectares affectés là, par les incendies de forêt.
Ouais, vous savez, on apprend par nos erreurs, c'est sûr. Et puis, vous avez développé quand même toute une expertise. Vraiment, on a vu déployer des efforts inouïs de votre côté. C'est quand même assez extraordinaire de voir tout le travail qui est fait sur le terrain, là, parce que c'est un travail de collaboration, bien sûr. Et quand on pense aux pompiers qui sont présents dans la forêt, qui se déplacent, c'est quand même quelque chose. On a ces avions-citernes. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a de nombreux lacs ici au Québec. Ça nous permet d'approvisionner en eau ces camions-citernes. Avions-citernes, plutôt.
Oui. Vous le dites bien, les lacs, justement, nous aident justement pour nos avions-citernes, mais c'est aussi une collaboration entre plusieurs type d'intervention, hein. Vous savez, quand un incendie est déclaré, les avions-citernes vont venir nous aider à contenir l'incendie. Mais ça nous prend également nos pompiers forestiers qui sont au sol, hein, qui, eux, vont aller dans la forêt, dans des secteurs souvent qui sont pas accessibles par la route ou est-ce qu'il n'y a pas de sentier, et qui devront arriver là en hélicoptère pour pouvoir aller travailler directement sur les incendies. C'est nos pompiers forestiers en haut sol qui vont éteindre l'incendie à la fin totalement de l'incendie, donc en travaillant sur les points chauds pour s'assurer que nos incendies ne renaissent pas de leurs cendres. Donc, ils vont faire vraiment un travail très minutieux là sur le territoire, sur des grandes parties du territoire. Fait que, donc, la collaboration entre l'aérien, les hélicoptères, les avions-citernes, nos pompiers forestiers au sol, ben permet justement de pouvoir éteindre nos incendies de forêt là, au bout du compte.
C'est ça. Il y a tout un protocole, finalement, quand se déclare un nouveau feu, finalement, jusqu'à temps qu'il soit maîtrisé, éteint. Et évidemment, il y a des feux qui sont hors de contrôle, bien entendu. Alors, votre expertise, elle sert même à l'étranger, un peu partout dans le monde. Hein. Vous êtes quand même appelé aussi à contribuer, donc à partager votre expertise un peu partout. Mais en fait, là, pour ce qui est de... on parle d'une nouvelle façon aussi, d'une nouvelle approche pour mieux gérer nos forêts en même temps et surtout à proximité, finalement, des différentes communautés. Il y a des interventions que l'on peut faire, qu'on a développées pour minimiser l'impact de ces incendies-là.
Absolument. L'atténuation de risque, c'est aussi une partie qu'on peut faire là, dans les communautés, puis au niveau de nos bâtiments. Vous savez, la SOPFEU a également un service en atténuation de risque pour donner de l'information aux différentes municipalités qui sont à proximité de la forêt ou dans des territoires où est-ce que la forêt est vraiment à proximité. C'est qu'il y a souvent des petites choses qui peuvent être faites autour de nos bâtiments pour nous assurer, si dans le cas où il y aurait un incendie de forêt, bien, nous assurer qu'au moins nos infrastructures aient moins de risques d'être touchées par les incendies. Puis c'est plein de petits conseils comme ça qu'on peut donner justement aux communautés. Puis on peut même s'en informer en allant sur le site de la SOPFEU. Il y a une partie dans la section prévenir où est-ce qu'on parle de prévention des incendies de forêt, mais également d'atténuation de risques auprès des bâtiments.
C'est ça, exactement. Il y a des façons de faire aussi pour limiter, c'est ça, que le feu se propage trop, là, finalement, créer des espèces de barrières naturelles pour éviter que le feu continue. Enfin, bon, maintenant, je pense à... Ben oui, on va sur votre site en même temps pour savoir quoi faire également, puis que ce qu'on a droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire également, puis être en lien aussi avec les propriétaires de camping aussi pour que les gens soient, enfin, utilisent finalement les installations de façon sécuritaire.
Absolument. Puis vous savez, ce travail-là en amont est très, très important aussi auprès de la SOPFEU. La prévention fait partie de la base, hein, parce que si on ne travaille pas en prévention et qu'on ne travaille qu'en suppression des incendies, ben, on pourrait en avoir beaucoup plus. C'est que, donc, la prévention, l'atténuation de risque font partie également des choses importantes là, qui sont faites par la structure.
Dites-moi, les vacances arrivent à grands pas, les vacances de la construction. Comme on parlait tantôt, il y a plein de gens qui vont se retrouver en camping. Est-ce qu'il y a des interdictions en ce moment au Québec pour les feux?
Actuellement, il n'y a pas d'interdiction de faire ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci. C'est des choses qui peuvent changer hein, dans le temps avec les dangers d'incendie mm-hmm. qui peuvent monter là, vers les extrêmes. On invite les gens à toujours s'informer du danger d'incendie puis également des restrictions. Ces restrictions-là, une fois qu'elles sont mises en vigueur, en plus d'être envoyées aux médias, d'être données à la population, elles sont disponibles sur le site Internet. Donc, ça peut changer d'une journée à l'autre. Puis souvent, ces interdictions-là ne sont pas pour tout le Québec. Elles seront pour les secteurs là, qui sont touchés des fois par des dangers d'incendie beaucoup plus élevés. Là.
Alors, bien sûr, vous serez présent à ce moment-là aussitôt qu'il se passe quelque chose. Vous êtes toujours présent dans les médias. Isabelle Gariépy, et merci bien d'être venue nous parler. Très important. Et puis, on se croise les doigts pour cet été, bien sûr.
Et merci beaucoup. Hein. Merci à vous de m'avoir invité.
Ça a été un plaisir. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Et Nathalie, on s'en va au Centre des sciences et on en parle avec Iréna Lézif, chef d'exposition, chef aux expositions. Bonjour.
Bonjour.
Oui, alors d'abord, c'est ça ma collègue, je pense que tu es déjà allée au Centre des sciences.
Ah, je suis allée tellement souvent avec mes enfants quand tu étais jeune. Ils sont rendus plus âgés, mais quand tu étais jeune, c'était une obligation
mais
d'y aller.
Mais quel endroit formidable, Madame Lézif, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que je prononce votre nom comme il faut d'ailleurs? Je voulais juste vous le demander.
Oui, c'est Lézif.
Lézif, d'accord.
Oui.
Alors, c'est ça, donc, je sais que c'est un endroit formidable, effectivement, pour la famille. Et vous allez aussi nous parler des nouveautés, des expositions, tout ça. Mais en même temps, on va porter un regard tout particulier sur les personnes à besoins particuliers parce que vous avez fait un très, très beau guide d'accompagnement pour ces gens-là. Et vraiment, vous avez fait beaucoup d'efforts pour que ce soit des expositions inclusives, qui soient accessibles à tous les niveaux d'accompagnement. D'ailleurs, quel que soit le handicap. Alors, on va en parler. Mais là, juste parler peut-être de... Bon, vous avez quand même de nouvelles expositions. Je pense à l'exposition interactive Banquet.
Oui, c'est vrai. Nous avons accueilli l'exposition Banquet depuis le mois de mai. C'est une exposition qui porte sur la gastronomie en général. C'est une exposition très interactive, mais aussi sensorielle. Nous avons également une zone avec un spectacle immersif où on peut, où on invite les gens à passer à table et vivre vraiment un moment spécial. Donc, oui, une exposition qui est vraiment pour tout le monde, pour tous les âges et vraiment selon l'intérêt qu'on porte à la gastronomie, on retrouve tout pour notre goût, en fait.
C'est ça. Puis il y a le potager techno aussi. Alors vraiment, c'est très, très, très vivant, ce musée. En fait, c'est pas un musée, mais ce centre des sciences. Et donc, et puis il y a les expositions permanentes, hein, qui sont toujours bien présentes encore là, toujours sont inclusives, participatives, interactives, enfin. Alors, c'est ça, donc. Et puis, on va en parler au fur et à mesure, mais parce que ce guide d'accompagnement, ben justement, c'est qu'à travers toutes ces expositions, ben, il y a des gens qui ont certaines limitations, certaines personnes, par exemple, qui ont besoin de, par exemple, que ce soit moins bruyant. Alors, c'est toutes des choses que vous allez nous expliquer. On parle de matinée apaisée aussi, à stimuli réduit. Hein, c'est pas facile à dire, là. Je m'excuse. Oui, c'est ça, je l'avais pas vu venir, celle-là. Bon, ça prend une bonne diction. Mais alors, donc, c'est pour vraiment que ce soit des visites en groupe ou en tout cas des personnes seules, vous avez quand même toutes des directives pour justement qu'on puisse se repérer à travers les expositions puis savoir qu'est-ce qui nous attend.
Oui, exactement. Le guide à besoins particuliers, c'est vraiment un outil de visite, un peu comme un guide de navigation. Là, on aime bien croire que c'est comme ça que les gens pourront l'utiliser. On le consulte en amont. En fait, il est disponible sur notre site web. On le consulte en amont. On voit ce qui figure là-dedans, c'est premièrement nos espaces et comment se repérer un peu dans le centre des sciences, comment repérer les employés du centre des sciences qui sont là pour nous aider. Puis ensuite, on y voit chacun des espaces d'exposition et à travers ça, ben on met en lumière les différents endroits qui peuvent soit être un peu problématique pour des gens à haute sensibilité ou au contraire des opportunités d'interaction un petit peu plus ciblées. Donc, c'est vraiment un guide complet à travers nos espaces avec tout un système de pictogrammes fait pour les parents à consulter avant de venir au centre des sciences.
Les matinées apaisées, qu'est-ce que c'est au juste?
Oui, bien, les matinées apaisées, c'est vraiment une initiative qui est née là, à la fin de la pandémie de notre vrai désir à accueillir les familles avec des enfants en besoins particuliers qui ont besoin d'un moment peut-être un peu plus calme et serein pour venir dans nos espaces. Mm-hmm. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, un dimanche sur deux, par deux mois environ, nous avons réservé une heure complète à partir de 9 heures. Donc, le Centre des sciences ouvre plus tôt et c'est vraiment le moment qui est réservé à ces familles qui viennent. Et durant ce temps, ben c'est vraiment dans un cadre plus serein qu'ils peuvent vraiment découvrir les expositions. Les stimuli sont diminués, donc les sons sont abaissés, il y a moins de lumière. Mm-hmm. Et on a aussi un cinéma IMAX. Et pour l'occasion, bien, on présente des films plus courts et aussi moins forts, donc vraiment plus adaptés pour un public sensible.
Ouais.
Alors, exemple, on a l'exposition Fabrique, hein, et là, là-dedans, ben, c'est qu'on doit, en fait, ça nécessite la manipulation de vrais outils qui sont en libre accès. Évidemment, bon, on ne parle pas d'outils dangereux, on s'entend, mais alors, c'est vraiment pour fabriquer à partir d'une espèce de bric-à-brac de matériaux, là, des trucs, là, finalement, alors, des structures quelconques. Et puis, mais en fait, vous avez toujours une petite note à l'effet, par exemple, qu'aucun des défis proposés dans Fabrique n'exige de lecture. Ici, on touche les matériaux, on construit et on teste, mais bon, il y a des courtes consignes qui sont vraiment données à la fois oralement par la présence des gens sur place, là, des gens, des accompagnateurs, si on veut, là. Et puis, mais il y a il y a des petites affiches, donc, qui résument bien les défis. Et puis, en même temps, ben, ça permet aux parents de dire, ben, est-ce que mon enfant va, est-ce que ça va être facile pour lui quand il y a des besoins particuliers comme ça. Donc, ça donne un petit peu, je voulais juste donner un petit aperçu, là, concrètement de ce que c'est. Mais il y a Fabrique, ça, c'est vraiment, c'est une salle en particulier. Il y a aussi l'exposition interactive Humain qui permet d'explorer les multiples métamorphoses de l'être humain depuis ses origines, hein, de comprendre aussi pourquoi et comment le corps se transforme. Alors là encore, on a des petites notes dans cette salle-là.
Effectivement, on peut vraiment retrouver des endroits où potentiellement les expériences vont être plus adaptées pour un certain type d'handicap. Et aussi, en fait, la manière que l'on présente, c'est il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, on offre des opportunités de faire certaines activités que un certain handicap peut empêcher. comme par exemple de proposer de le faire à travers une personne interposée. Donc, on trouve des façons d'effectuer une activité avec l'accompagnement. Donc, on contourne un peu l'incapacité des gens pour le faire de manière plus intégrée et collaborative avec soit les éducateurs qui sont sur place. Vous avez bien fait de mentionner, surtout dans Fabrique, on a toujours des éducateurs scientifiques qui sont là. Et donc, ils accompagnent les visiteurs dans leurs défis. Mais ensuite, pendant les matinées apaisées, surtout, on a un personnel très présent. Et puis, ils peuvent aussi aider à faire certaines des activités.
Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais effectivement, ça peut être des personnes, justement, où on parle, par exemple, d'expériences où on va avoir les mains mouillées pour certains enfants. Oui. Ça peut être problématique. Ça peut être au niveau sonore, ça peut être au niveau de l'éclairage, plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas qui peuvent être... Et puis là, vous les accompagnez là-dedans, puis c'est ça, vous mettez des petites notes. C'est vraiment... Écoutez, c'est la première fois que je vois ça. Le Centre des sciences, il faut dire, bon, il y a déjà eu un Centre des sciences en Ontario, mais évidemment, vous êtes donc à peu près unique, en quelque sorte, ce genre de centre-là. C'est pas un musée, mais bon, de lieux comme ça.
Les Centres des sciences, c'est vraiment une petite bête à part dans le monde culturel. On est vraiment là pour éduquer et informer les gens tout ce qui se fait, au fait, sur le front scientifique. On veut vraiment éveiller un peu la petite lumière en eux là, pour qu'ils puissent s'intéresser et s'investir dans le monde des sciences. Au Canada, il y a plusieurs centres des sciences. Les grandes villes, souvent, vont en avoir un. Vous avez bien mentionné qu'il y en avait un en Ontario. Je sais qu'il y en a un à Vancouver aussi, Edmonton, Calgary. Donc, au Québec, nous, on est le seul. C'est à Montréal.
C'est ça, exactement. Et puis, évidemment, on retrouve des toilettes vraiment bien adaptées à toutes sortes de situations. Autant, il peut y avoir des tables allongées, ben pour, on pense aux enfants, mais ça peut être pour des adolescents, enfin, des gens, comme je vous dis, qui ont des besoins particuliers. Alors, c'est vraiment à tous les niveaux. Écoutez, vraiment, vous êtes à la fine pointe de tout, finalement. Ben écoutez, ça a été vraiment très agréable. Et puis, le coup de cœur, là, des jeunes, enfin, l'exposition qui remporte beaucoup de succès actuellement, vous diriez laquelle?
C'est Explore. Oui. Oui, parce qu'il y a une grande bulle de savon. Et donc, vraiment, échelle humaine, tu te places dans un endroit où tu es entouré d'une grande bulle de savon. Ça fait vraiment la joie de tous.
Ah oui. Alors, c'est ça. Donc, l'accessibilité universelle, enfin, vous y connaissez en la matière. Alors, c'est vraiment un endroit à fréquenter, puis pour multiplier les expériences. De toute façon, je pense qu'on peut pas y arriver en une journée. Je pense qu'il faut repasser, il faut y retourner.
Oui, oui, et on peut aussi devenir membre au FEST, parce que ça, c'est vraiment une chouette façon d'avoir un retour de visite qui soit plus accueillant.
Alors, vous êtes situé dans le Vieux-Montréal, facile à trouver, évidemment, au Vieux-Port. Alors, merci infiniment, Iréna Lézif, d'être venue nous en parler, chef des expositions au Centre des sciences de Montréal. Bonne journée à vous tous et bon été. Ben, ça dit non, qu'est-ce que je raconte? Bonne journée à vous, madame, et puis bon été.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Ce que nous entendions présentement, c'était le Catarina String Quartet, et oui, et on reçoit justement Jérôme Chiasson, qui en est membre de ce quatuor. Alors, bonjour!
Bonjour.
Bon, alors c'est ça, magnifique. C'est magnifique et de toute façon, je ne suis pas la seule à le dire parce que vous avez été remarquée, évidemment, puisque, bon, alors vous êtes diplômée de l'Université McGill et votre ensemble a été admis au prestigieux conservatoire Juilliard à New York. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un établissement très, très prestigieux. En effet, tous des grands noms sont passés par là et puis chez nous, je pense, il y a Angèle Dubois qui est passée notamment du côté de Juilliard, il y en a bien d'autres. Et là, vous vous apprêtez à vivre 2 ans en résidence à cet endroit-là.
Exactement. Très excitant.
Oui, c'est ça. Et puis, vous êtes tout jeune. Et puis, ça fait à peine 2 ans que vous êtes réunis, les membres de ce quatuor.
Exactement, oui. Ça fait 2 ans. En fait, on étudiait tous à McGill en même temps, puis on a décidé... On s'est tous unis grâce à notre passion pour la musique de chambre, puis c'est comme ça qu'on s'est formés il y a 2 ans. Puis rapidement, on a vu notre intérêt de continuer ça plus à long terme. À la base, c'était un projet pour l'école, mais finalement, on a vu qu'il y avait un potentiel d'amener ça plus loin puis d'en faire peut-être même une carrière. Donc, oui, exactement.
Alors, c'est quand même de grands défis, là, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, bien sûr. Vous, Jérôme, là, vous êtes tout jeune encore, là, finalement, et puis vous êtes... en fait, votre père était flûtiste, hein? Vous avez déjà...
Oui,
vous aviez un petit peu d'hérédité, là, au niveau de la musique.
J'ai baigné dans la musique quand j'étais jeune. Mon frère jumeau jouait du piano pendant 15 ans, puis mon père... enseignait la flûte, était directeur de chorale. Donc, j'ai vécu là-dedans depuis que... En fait, je me rappelle pas ma vie avant le violon, avant la musique.
À ce point-là, quand même.
Où on allait. Oui, exactement. Peu importe où on allait, on avait tout le temps de la musique dans la voiture ou même quand ma mère était enceinte, mon père, il jouait de la flûte pour nous. ma mère est pas musicienne, mais est passionnée aussi de musique. Donc, oui, ça, j'ai toujours baigné dans cet univers-là.
C'est ça, parce que je vois que vous êtes né quand même en 2000. Et en 2011, vous êtes déjà, vous et votre frère, en concert, dans un concert-gala de la Fondation du Palais Montcalm à Québec. Alors quand même, vous êtes né d'abord à Québec, oui, c'est ça? Vous êtes originaire de Québec. Alors vous étiez déjà dans un concert à l'âge de 11 ans, finalement?
Oui, ça a commencé assez jeune, mais en fait, Québec, c'est une belle communauté, puis les jeunes musiciens sont beaucoup appelés à se produire, puis il y a des professeurs incroyables à Québec, il y a des orchestres incroyables, il y a beaucoup qui se passe au Québec en général, en fait, pour la musique classique.
Donc, absolument. J'ai ma collègue Nathalie qui va vous poser une question.
J'ai une petite question pour vous. En fait, comment se sont déroulées les sélections? Avez-vous eu des auditions à passer? Comment ça s'est déroulé?
Oui, c'est quand même un long processus, en fait.
Ouais.
Donc, pour commencer, il faut envoyer des vidéos de notre ensemble. Mm-hmm. La date limite était le 1er décembre. Donc, on envoie des vidéos et aussi des vidéos de notre jeu. Ils nous demandent certaines pièces ou périodes spécifiques, donc une pièce de Haydn, une pièce romantique, etc. Puis,
alors, vous avez dû apprendre beaucoup de répertoire quand même parce que vous ne saviez pas
exactement
ce que vous alliez jouer là.
Exactement. Puis de devoir tout enregistrer ça quand même d'une façon professionnelle pour que la qualité sonore soit la meilleure possible. Donc, ça fait beaucoup. Puis il faut aussi écrire plusieurs documents, puis comparer...
lettre d'intention, entre autres. Ouais.
Exactement. De comment on s'est formé, nos valeurs en tant qu'équateur et tout ça. Et après ça, il y a une sélection qui se fait. L'équateur professeur à Juilliard invite certains quatuors à venir auditionner en personne. Donc, je ne sais pas exactement combien de quatuors ont été invités à auditionner, mais notre audition était début février. Donc, encore là, préparer plusieurs pièces et aussi une entrevue. Donc, l'audition était 2 heures. Une heure, on a joué tout ce qu'on avait. Mm-hmm. Et l'autre heure, on a discuté avec les quatuors. Puis, donc c'est quand même un long processus, mais qui s'est très bien passé quand même.
Ouais, alors effectivement, vous avez travaillé fort parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans. Et puis, je suis à peu près certaine que, évidemment, vous avez été choisi parmi pas mal d'ensembles comme ça qui, finalement, se sont inscrits aux auditions. Mais évidemment, vous avez peut-être été retenu parmi un petit groupe seulement. Et puis là, vos collègues, là, parlons-en, vous n'êtes pas tout seul, donc vous êtes 4. Alors, parlez-nous de vos collègues. Elles ont aussi étudié au conservatoire, c'est-à-dire à l'Université McGill, c'est-à-dire.
Oui, exactement. On s'est tous rencontrés à McGill. Je viens de la ville de Québec, l'altiste vient de la ville de Montréal et les deux autres viennent en dehors du Québec. Donc, l'autre violoniste vient de Calgary et la violoncelliste vient de Bellingham aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un bel amalgame de plusieurs cultures, plusieurs pays. Puis, on s'est tous liés d'amitié, puis on s'est liés par notre passion de la musique de chambre à McGill, puis rapidement, on
c'est
est devenus.
Chacun a eu son parcours, finalement. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de magie quand vous vous êtes rencontrés, puis à la fois, mais c'est parce que votre son aussi, je pense qu'à Juilliard, d'ailleurs, on l'a souligné, votre musique, c'est très beau, c'est-à-dire que vous avez aussi votre façon de jouer, votre façon d'interpréter en même temps et de donner une couleur particulière aux œuvres.
Ouais.
Et c'est tout
ça. Il y a quelque chose de vraiment magnifique dans le quatuor à cordes. C'est vraiment d'amener quatre personnalités différentes, quatre bagages différents, mais ensuite d'unir ça puis créer un son, une personnalité au quatuor. Puis c'est très, très riche comme façon de jouer de la musique. Puis les quatre, on aime énormément, on est très attachés à la musique du quatuor à cordes.
Oui, puis en fait, aussi, vous avez, dans vos valeurs, justement, dans vos valeurs, on parle aussi d'inclusivité. Vous mettez l'accent aussi sur même des compositrices, je pense, ou enfin des... c'est ça, il y a aussi un souci d'inclusion.
Absolument. Oui, il y a un intérêt envers l'inclusivité, la communauté. Même notre nom de notre quatuor est inspiré Katharina Guarneri, qui était la femme du très célèbre luthier Guarneri. Puis, dans le fond, lui est tombé malade et elle a pris le relais pour la création de beaucoup d'instruments. Puis, donc, il y a des rumeurs qu'elle aurait créé ses meilleurs instruments, puis lui, il a signé son nom parce que à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas travailler comme les hommes. Puis donc, pour nous, de rendre hommage à une femme qui a créé des instruments si
c'est ça. Et c'était le cas pour bien des compositrices qui ont souvent travaillé dans l'ombre. Hein.
Absolument.
Puis méconnu des compositrices méconnues bien souvent. Alors, écoutez, ça c'est un aspect très intéressant de votre travail. Et puis, comme on l'a dit, de développer une personnalité et aussi, ça a été quand même un défi. Et en si peu de temps, c'est ça qui est merveilleux.
Oui.
Ça suppose que même malgré votre jeune âge, vous avez acquis une grande maturité aussi par rapport à la musique.
Oui, c'est sûr. Puis, en fait, de travailler autant intensément les quatre comme ça pendant 2 ans, on a créé des liens vraiment incroyables. Puis, oui, c'est allé rapidement, mais on trouve que, je sais pas, dès le début, on a vu cette connexion puis ce potentiel d'amener quelque chose très loin. Puis, on a eu la chance de travailler avec André Roy, notre mentor et notre professeur de musique de chambre à McGill, qui a tout de suite vu notre potentiel et qui a vraiment poussé pour qu'on réalise nos rêves. Puis sans lui, c'est sûr qu'on ne serait pas où on est maintenant. Donc, qu'on ait toute mis notre énergie comme ça, c'est comme ça qu'on a réussi en juste 2 ans à atteindre un niveau puis à atteindre nos rêves.
Et comment vous envisagez vos 2 ans là, de résidence? Parce que vous allez non seulement, quand même, il y a un aspect formation, vous allez en retirer une bonne formation, mais en même temps, vous allez enseigner.
Oui, absolument. Donc, il y a différents volets à cette résidence-là. Donc, d'abord, juste d'aller étudier et d'apprendre auprès du Juilliard String Quartet, c'est une opportunité de rêve. C'est un quatuor qui a tellement d'histoire et d'expérience. Puis, à part, on va aussi enseigner à des jeunes quatuors. Donc, les premières années à Juilliard du baccalauréat font un cours qu'on appelle le String Quartet Seminar. Puis, on va assister certains professeurs pour pouvoir enseigner à ces jeunes quatuors. Donc, on a très hâte de les rencontrer, puis aussi de développer notre propre identité en tant que professeur et mentor, parce qu'on a souvent été dans le rôle inverse.
Ouais.
Et là, de pouvoir prendre la responsabilité de mentor, ça va être très, très formateur pour nous.
Aïe, aïe, aïe. Alors, j'imagine que vous avez un peu le trac en même temps, non?
c'est sûr que c'est un peu stressant, mais on est tellement excités à l'idée d'y aller, puis ça fait des mois qu'on le sait maintenant, puis qu'on y pense. Donc, je pense qu'on est prêt de se lancer là-dedans, puis de le vivre à fond.
Et septembre arrive à grands pas quand même. J'imagine que vous devez avoir hâte de vous installer à New York, ce qui n'est pas rien non plus d'aller vivre à New York. Vous êtes chanceux.
Oui, absolument. Absolument.
Vous êtes tellement chanceux.
C'est un rêve d'enfance que j'avais, puis ouais, de pouvoir profiter de la ville, de voir toute cette c'est un centre culturel énorme, puis il y a tellement d'opportunités incroyables pour les jeunes musiciens en début de carrière à New York, donc... Puis beaucoup de possibilités d'engagement communautaire aussi. Donc, j'ai très, très hâte de tout voir ça, oui. Mm.
Alors, vraiment. Alors, ben, en fait, vous, je pense que vous avez déjà fait partie de l'émission Virtuose en passant avec
oui.
de Grégory Charles. Hein? Alors, le,
oui.
ça, c'était en 2016. Alors, vous dire le parcours quand même réalisé depuis ce temps-là, c'est quand même incroyable. Alors, c'est vraiment, ben, bravo. Bravo aussi à vos collègues. Et puis, ben, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à New York et puis que ben, vous allez en tirer profit grandement et aussi faire partager aux autres ben, toute votre expérience acquise finalement et puis toute cette belle énergie que vous avez. Ben, ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui, Jérôme
Merci
Chiasson.
Merci énormément. Merci beaucoup.
Félicitations moi aussi, encore.
Bravo. Et puis on va, ben, on met ça au... Ben, parce que vous avez quand même le Katarina String Quartet, hein, c'est quand même disponible. On peut écouter vos œuvres, c'est-à-dire
oui, absolument.
Votre album. Oui.
Ouais. Oui, sur YouTube, on peut trouver des enregistrements. Sur Instagram, Facebook, on est là aussi. On a même un site web. Donc, on va essayer d'être de plus en plus, grâce à la résidence, on va essayer d'être de plus en plus mis de l'avant. Donc, oui.
Alors, intéressant parce que vous avez vraiment un son exceptionnel. Alors, je pense qu'on l'a remarqué tout de suite. Alors, ben bravo et ben je vous souhaite de belles années à venir.
Merci énormément.
Merci
Au revoir.
Beaucoup.
Au revoir.
Voilà, on poursuit notre dernier sujet. Ben, on quitte la musique et on s'en va du côté de Espace LGBTQ+, et on accueille Nicolas Bourgois, qui est président du conseil d'administration de Espace LGBTQ+.
LGBTQ+, oui.
Voilà, je l'ai dit trop vite, puis je l'ai dit deux fois, puis c'était une fois de trop. OK, alors c'est cet espace qui est tout nouveau et qui est en fait, qui se veut une vitrine pour plusieurs services communautaires. Alors là, présentement, évidemment, on va le dire tout de suite, là, vous avez acheté un beau bâtiment qui demande quand même un petit peu d'amour, dans le sens qu'il demande petite mise à jour là, au niveau de l'espace, au niveau de l'accessibilité, plein de choses. Alors, c'est sûr que ce n'est pas encore les organismes communautaires ne sont pas encore réunis, mais c'est déjà un premier pas. Bonjour.
Ben bonjour, merci beaucoup de votre invitation
voilà.
aujourd'hui.
J'ai fait une longue introduction. Oui, ben écoutez, c'est un plaisir parce qu'effectivement, c'est toujours un défi hein, de travailler dans ce domaine-là, dans le domaine communautaire, de réunir tous les intervenants et puis aussi d'avoir une espèce de, si on veut, comme pas un guichet unique, mais une porte en bonne et due forme où les gens peuvent se rendre et puis en disposer de plusieurs services. Là, présentement, où vous en êtes dans votre projet?
Alors, aujourd'hui, on est propriétaire officiellement du bâtiment qui est situé au 929 rue Sainte-Catherine-Est, donc juste à côté de l'Olympia, à l'entrée du village, dit village inclusif de Montréal. Donc effectivement, c'est une bâtisse qui était anciennement occupée par des locaux commerciaux. Ceux qui le connaissent savaient qu'il y avait un Yellow, un Bédo dans ce bâtiment-là. C'est également un bâtiment qui a servi d'entreposage. Donc c'est un bâtiment qui effectivement a besoin de beaucoup d'amour. Qui a besoin de rénovations assez majeures, je vous dirais. Mais pour nous, c'était quand même une immense opportunité de pouvoir acquérir cet emplacement. Donc pour le moment, effectivement, le bâtiment n'est pas exploitable dans l'état. La transaction financière a eu lieu à la fin de l'été dernier. Au cours de l'année qui s'est écoulée, on a justement fait beaucoup de structuration interne de notre organisation. On a maintenant des ressources humaines à temps plein, une direction générale, une personne entièrement dédiée justement au développement immobilier du projet. Et on est en train de structurer notre campagne de financement majeure qui devrait débuter au cours de l'année à venir.
Oui, donc, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Alors, exactement.
C'est sûr que pour faire les rénovations d'usage, ben, ça prend des sous et vous êtes rendu là. Donc, le projet comme tel est dans l'air depuis quand même plusieurs années, là.
Oui, ben, je ne ferai pas tout l'historique, mais ça fait au moins 30 ans que les communautés LGBTQ+, de Montréal, mais même du Québec, en fait, attendent d'avoir un lieu qui leur est entièrement dédié. Pour le moment, on a des organismes qui sont dans le village, mais ne sont pas sur Sainte-Catherine. Il y en a beaucoup même qui ont dû quitter le village parce que justement, les loyers commerciaux devenaient de plus en plus élevés. Nous, notre but, c'est vraiment de rapatrier ces ressources communautaires dans le village, qui est à la fois un lieu patrimonial, un lieu communautaire. Et puis aussi, il y a une demande de longue date de la communauté, de faire du village un lieu qui ne soit pas uniquement dédié à la vie nocturne et à la consommation d'alcool, on va se le dire. On aime beaucoup l'aspect
oui,
festif du
village. Que ce
soit
village. Pas juste la fête non plus.
Voilà,
il y a
ça.
D'autres besoins aussi.
Mais on pense notamment à tous les jeunes, les mineurs qui arrivent à Montréal. Bon, mineurs, évidemment, qui arrivent au cégep, par exemple, mais qui se cherchent un lieu d'attache à Montréal. Le village, c'est souvent un point de ralliement. Et donc, malheureusement, alors je tiens quand même à citer le travail formidable de l'équipe de l'Astérisque, qui est un petit centre communautaire, en fait, qui est situé sur la rue Atadéguen, mais dont les locaux ne sont pas nécessairement adaptés à des grands groupes et à accueillir plus d'organismes communautaires dédiés à la jeunesse. Donc, nous, on ne va pas forcément se focaliser uniquement sur la question jeunesse. On a à peu près une quinzaine de groupes qui sont intéressés à occuper le bâtiment, qui ont aussi des lettres d'appui.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. À peu près combien de groupes? À peu près une quinzaine que vous pourriez accueillir?
À peu près une quinzaine. C'est sûr que pour le moment, on reste.
Est-ce que ce serait suffisant d'après vous?
Les besoins sont immenses. Donc, il y a des groupes qui vont être sur une liste d'attente. Et notre ambition, en fait, c'est qu'une fois que le 929 sera entièrement finalisé, il y ait une deuxième étape.
Ouais.
Donc, soit à Montréal, soit ailleurs. On a déjà reçu des demandes, notamment à Québec ou en Estrie, pour évaluer le potentiel en fait, de développement dans ces endroits-là. Mais à terme, ce qu'on aimerait, c'est avoir une constellation, un réseau en fait, d'espaces communautaires LGBTQ+, à travers le Québec. Je tiens quand même à mentionner que Montréal, c'est la seule métropole au Canada qui ne dispose pas d'un centre communautaire dont les organismes sont les propriétaires et les gestionnaires. À Montréal, il y a le 2075 Plessis, qui est un bâtiment qui appartient à la ville, qui est dans un état, on va dire, en dégradation, qui va bientôt subir des travaux majeurs. À l'intérieur, on retrouve le centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, l'organisme Réseau, par exemple, ACCM, d'autres organismes LGBT. Mais voilà, ces organismes n'ont pas des locaux qui sont adaptés à leurs besoins et ils sont sous la menace constante d'une expulsion ou d'une relocalisation, en raison des travaux. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'offrir des locaux qui sont adaptés aux besoins des organismes et des locaux qui sont neufs et de qualité.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on pensait à tort, finalement. Oui, on a des organismes formidables qui sont très engagés dans la communauté, mais c'est ça, c'est ce point de ralliement qu'on n'a pas. C'est sûr que, bon, je pense que Fierté Montréal a fait beaucoup aussi. Et puis, à chaque année, là, il y a toujours le festival de la Fierté, donc, où on met en valeur beaucoup ces organismes-là. Bien sûr, il y a tout ce volet communautaire qui est bien présent. Et d'ailleurs, ça va être, je pense, autour du... Enfin, c'est entre le 1er et le 8 août, je pense.
Oui, alors, excusez-moi, j'ai pas forcément
comme
les dates,
tel, le festival.
Voilà.
Mais alors, c'est une façon de reconnaître ces organismes-là. Mais c'est ça, donc, vraiment, c'était ça, ça nous manque à Montréal. Alors, c'est vraiment ça, c'est pour moi, c'est une surprise de savoir qu'on n'avait pas ce genre de lieu-là, puis qu'ailleurs, on retrouve ça... partout ailleurs.
Tout à fait. Mais en fait, en Amérique du Nord, il y a tout un réseau de centres communautaires LGBT. Bon, à Toronto, par exemple, il y a le 519. À Vancouver, c'est le centre Community qui s'appelle. Et puis ensuite, à travers tous les États-Unis, vous avez un réseau qui s'appelle Centerlink, par exemple, qui réunit au bas mot 80 groupes communautaires, enfin, centres communautaires en dur, là, avec des murs qui leur appartiennent, une co-gestion des espaces. Donc, notre vocation, c'est vraiment d'offrir quelque chose de similaire. Au Canada, il y a le réseau Enchanté, qui est un petit peu le pendant de Centerlink, qui réunit une multitude de groupes. Mais voilà, on n'a pas encore de... Il n'y a pas de bras immobilier, en fait, à la communauté LGBT. Donc, on est souvent dépendant, justement, des locaux publics ou des locaux qui appartiennent à d'autres organismes. Donc, il y a aussi une volonté un peu de s'autonomiser, d'avoir nos propres ressources. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'empowerment de la communauté. Donc, on veut des espaces qui soient à part et pour les communautés LGBTQ+.
Exactement. Et puis, évidemment, tant qu'à faire, ben là, on parle d'inclusion, d'accessibilité universelle aussi, tant qu'à travailler sur un nouveau bâtiment. On parle aussi d'un bâtiment qui aussi au niveau des normes environnementales. Alors,
oui.
ça augmente aussi les coûts, mais enfin, c'est la nouvelle façon de faire aussi quand on a... C'est ça qui fait que c'est très cher en même temps.
Je pense qu'on a un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire que là, on a accès à un bâtiment. Le but, c'est d'avoir les critères de qualité les plus élevés possibles, d'avoir de grandes ambitions. Donc là, on travaille avec quand même une multitude de partenaires. C'est pour ça que, comme je le signalais en hors onde, on a fait beaucoup de travail de structuration à l'interne. Il y a beaucoup de travail invisible qui a été fait pendant l'année écoulée, notamment avec Éco-Bâtiment pour reconstruire une vision du développement durable à la fois pour le 929, mais aussi pour les futurs projets immobiliers qu'Espace LGBTQ+ aimerait mener. On a également travaillé avec... une firme pour autochtoniser nos pratiques, donc avec des personnes autochtones qui ont travaillé avec nous, donc justement pour développer une idée de qu'est-ce que c'est des pratiques d'autochtonisation, pardon, d'un espace communautaire, qu'est-ce que ça signifie d'être propriétaire sur des territoires qui sont non cédés, quel type de relation on peut avoir avec les communautés du territoire de Montréal. Excuse-moi, je ne prononcerai pas le nom autochtone parce que je suis vraiment mauvais dans la prononciation de ces termes. Mais,
c'est comme moi tantôt avec LGBTQ+, mais enfin.
Voilà. Mais voilà, on essaye vraiment d'y aller pas à pas avec une approche inclusive. On n'a pas les réponses à tout, mais c'est certain qu'on va essayer quand même de couvrir un maximum de sujets. Et puis évidemment, vous l'avez cité, l'accessibilité universelle, là, pour nous, c'est indispensable.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a des défis, évidemment, au niveau des organismes. Est-ce qu'il y a certains organismes que vous allez prioriser pour qu'on essaie d'avoir le maximum de services? On parle, bien sûr, de problèmes. Ça peut être des problèmes de toxicomanie. Ça peut être des problèmes de toutes sortes, finalement. Alors, il faut donner, finalement, le maximum de services. Ça, c'est un défi aussi de les trier sur le volet, si on veut.
Oui, alors c'est certain que je ne donnerai pas de nom aujourd'hui parce que la liste finale peut encore évoluer en fonction des capacités financières des organismes aussi, parce que le but, c'est d'offrir un espace le plus abordable possible. Mais la liste de prix, par exemple, au pied carré n'a pas encore été totalement établie. C'est quelque chose qu'on veut dynamique, qu'on veut solidaire. Donc, il y a tout un modèle inspiré très fortement de l'économie sociale aussi qui soutient ce qu'on veut faire. Donc, mais effectivement, pour répondre à votre question, notre préoccupation, c'est que le complexe LGBTQ+, qu'on est en train de bâtir, accueille à la fois des organismes qui sont pour les femmes lesbiennes, pour les personnes trans, pour les utilisateurs éventuellement effectivement de drogue, d'opioïdes. Donc bref, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Et pour nous, c'est important de ramener ces organismes aussi avec un pignon sur rue sur la rue Sainte-Catherine. On ne se le cachera pas, l'espace dans lequel on s'inscrit dans le village, c'est un espace qui est... qui subit beaucoup de critiques depuis quelques années maintenant, qui vit quand même une transformation. Nous, on pense qu'on est capable d'avoir un impact positif sur le village, c'est-à-dire sans gentrifier, en offrant de nouvelles ressources, mais aussi en donnant, comme vous l'avez dit, un aspect vitrine de la communauté, quelque chose qui soit attirant pour les citoyens, citoyennes de Montréal, mais également pour tous les touristes à l'international qui vont venir visiter le plus grand village gay, inclusif, en fait, LGBTQ+.
Voilà, et devenir une référence aussi. Donc, on a tout ça à revitaliser. Évidemment, les gouvernements doivent être partie prenante de ça, ça c'est sûr. Et puis, déjà, bon, il y a eu quand même de l'argent de donner pour le bâtiment, pour l'achat du bâtiment. Mais là, c'est évidemment l'autre phase, c'est de pouvoir rénover et puis de pouvoir accueillir tous ces organismes-là.
Vous parliez tantôt de campagne de financement. Vous allez faire quoi, au juste?
Alors d'abord, je vais revenir sur l'achat du bâtiment. On a effectivement des aides publiques qui sont des prêts. Donc là, la prochaine étape, c'est de convertir ça dans une hypothèque. Le bâtiment a quand même été sécurisé, il est retiré du marché, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on paye l'hypothèque, évidemment. Donc ça, ça pèse dans notre plan d'affaires. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un mix innovant avec du public, évidemment, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, mais on veut également un soutien du privé. Enfin, on souhaiterait fortement un soutien du privé, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on développe énormément l'aspect philanthropique et également un soutien de la communauté, donc à travers les fondations philanthropiques dédiées, mais également auprès des citoyens. Donc, un exemple de mesure qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est le déploiement d'obligations communautaires qui vont être émises à partir du mois d'août. Dont une partie a déjà été vendue en fait à l'avance, là, donc à des partenaires qui seront révélés en temps et en heure. Une campagne de levée de fonds majeure, ça prend quand même du temps à préparer. Donc, on a des spécialistes en philanthropie dans notre équipe qui travaillent très fort là-dessus. On développe énormément de documents, des chartes d'impact. On veut démontrer justement la viabilité de notre projet. Donc, je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a toute une structure, une logistique, il y a un effet de surprise aussi qu'il faut conserver.
Mais enfin, on en saura davantage, j'imagine. Voilà. Est-ce que c'est cet automne, c'est ça?
Probablement à l'automne, il y aura déjà effectivement... déjà en août, vous allez entendre parler des obligations communautaires. On veut profiter de la fierté justement pour visibiliser. Puis par la suite, il y aura d'autres mesures qui seront mises en œuvre. D'accord. Mais j'insiste vraiment sur la dimension innovante de la philanthropie.
Nicolas Bourgois, donc de Espace LGBTQ+, merci d'être venu nous en parler. Puis on sera à l'écoute, bien sûr. Alors, au revoir et bonne journée à vous.
Merci.
Et bonne journée à tous nos auditeurs. Merci Nathalie Barrette d'avoir été là. Bien contente. Et puis, on se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine Aime l'été, entre midi et 13h. Au revoir tout le monde.
Après la pause.